Et bonjour à tous, bienvenue dans le Boca Show, un podcast d'une vingtaine de minutes sur le développement personnel et sur l'amélioration du quotidien au quotidien. Dans ce podcast, nous parlerons de beaucoup de choses et de beaucoup de sujets, mais tous ont un but commun, vous questionner sur votre mode de fonctionnement, vos usages et améliorer votre quotidien. Et comme je suis un geek, un pseudo-geek et un Apple fanboy, j'aborderai ou nous aborderons, ça dépend de vous, des sujets liés à l'informatique, à l'univers Apple et à l'informatique en général. Dans tous les cas, je resterai dans l'objectif du podcast qui est l'amélioration ou l'improvement. En gros, le mantra de ce podcast serait « Vivez mieux, mangez mieux, organisez-vous mieux, sentez-vous mieux et améliorez-vous tous les jours un peu plus. » Ou alors « Be 1% better every day. » Soyez ou être 1% meilleur chaque jour. Et de nouveau, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve, comme d'habitude, pour un nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un peu de son réseau domestique, son réseau informatique ou sa connexion Internet, comme vous voulez, en fonction de votre sensibilité sur le sujet. On va encore une fois faire quelque chose de simple. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, je ne vais pas vous embêter avec des termes trop spécifiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu un tour de... Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous pourriez faire sur votre connexion Internet à la maison pour améliorer les choses? Donc, on va évoluer, je dirais, en trois parties. On va vous parler un peu de ce que tout le monde possède ou pas, ou on va dire le minimum requis à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et comment on peut aller un peu plus loin? Donc, qu'est-ce que vous avez à la maison? Normalement, vous avez une box Internet. Vous avez logiquement un forfait avec votre opérateur qui vous a fourni une box, que vous soyez passé par une clé 4G, pas une clé, pardon, par un abonnement 4G ou par un abonnement filaire ou la fibre, ou enfin ce que vous voulez, vous avez une box Internet qui a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de récupérer les données Internet et puis d'Internet. Et le deuxième objectif, c'est de vous apporter Internet sur vos différents appareils. Donc ça marche en filaire, donc via les câbles RJ45 ou, j'avais dit que je ne ferais pas technique, mais pardon, ou via le Wi-Fi. Donc le Wi-Fi, je vais quand même vous... Enfin, en gros, c'est par onde ou par câble. Hein. On va pas aller plus loin, je pense que tout le monde sait ce que c'est que le Wi-Fi et le filaire. Du moins, les gens qui m'écoutent. Donc voilà, vous recevez Internet de cette façon-là et après, à vous de l'apporter sur vos différents appareils. Donc soit vous vous y connaissez un peu et à ce compte-là, je pense que la deuxième partie du podcast vous intéressera un peu plus. Sinon, restez avec moi, on va aborder les sujets de base ou les sujets qui vont intéresser tout le monde. Donc du coup, votre opérateur vous fournit une box Internet et vous avez certaines options pour éventuellement avoir un boîtier supplémentaire, un boîtier Wi-Fi supplémentaire ou un boîtier filaire parce que vous avez une grande maison, des murs épais ou que votre configuration actuelle ne marche pas. Vous avez aussi l'option de la clé 4G. Certains opérateurs fournissent une clé USB avec une puce 4G, hein, comme sur vos téléphones, pour vous connecter à Internet au besoin. Donc aujourd'hui, il y a certains opérateurs qui proposent ça pour compléter votre connexion ADSL ou Internet actuel et d'autres qui vous proposent ça en remplacement d'un abonnement puisque vous n'avez tout simplement pas d'accès à Internet et le seul accès que vous pouvez récupérer c'est via la 4G et vous n'avez pas d'abonnement ou votre opérateur ne vous propose pas d'abonnement 4G. Et bon, c'est plus pour les clés, c'est plus des solutions de dépannage. Et le dernier sujet ou le dernier point, c'est que vous pouvez aussi utiliser votre téléphone avec un partage de connexion. Vous utilisez votre abonnement 4G, votre forfait de données 4G de votre téléphone pour vous connecter à Internet. Donc ça, son intérêt, ses limites, on peut en parler après, mais concrètement, ça vous permet, quand vous êtes en déplacement ou que vous n'avez plus d'Internet à la maison, d'utiliser ce forfait-là, quoi. Les contraintes de cette option, ou on va dire de ce basique, c'est votre maison, si vous avez une très grande maison, si vous avez des murs épais, ou vous êtes dans un vieil immeuble, Vous avez énormément de gens qui ont tous une connexion ADSL avec des boîtiers d'opérateurs où ça peut interférer, même si vous n'êtes pas trop loin de votre borne, entre les interférences, les murs en plâtre, les murs en briques pour des vieux bâtiments ou autres, bah, vous pouvez perdre un peu de votre débit. Donc qui dit débit dit la qualité vidéo sur YouTube, ou si vous regardez la télé par internet, peut être dégradée, ou vos téléchargements, ou vos jeux en réseau, ou plein d'autres choses, hein. Vos visioconférences, puisqu'actuellement c'est clairement le sujet. Vous êtes limité aussi par l'opérateur, par le contenu et le fonctionnement de leur box. En gros, il y a des options qui fournissent ou qui ne fournissent pas, et vous allez être un peu limité par rapport à ça. Vous êtes obligé d'utiliser l'interface, en gros tout le mode de fonctionnement de l'opérateur, qui est suffisant, mais un peu basique. Donc ils font plus de choses, mais je ne trouve pas que ce soit transcendant. Après, vous avez aussi les limites de votre maison par rapport à votre réseau filaire. Si votre maison est ancienne, vous pouvez vous retrouver avec une connexion fibre et finalement ne pas avoir le débit, le débit que vous pourriez, auquel vous pourriez prétendre, parce que ben, plusieurs choses, soit les câbles internet, les câbles filaires RJ45 de votre maison, ben, ne sont pas assez puissants, sont abîmés. Il y a des cas où il y a des petits rongeurs qui ont grignoté des câbles quand on les fait passer sous les toits sans les protéger. Vous avez aussi les câbles cuivrés des très vieilles maisons qui peuvent être abîmés ou autres. Donc là, ça va vous poser quelques problèmes. Et puis vous avez des limites de sécurité. En gros, si quelqu'un pirate un opérateur et arrive à accéder à certaines choses, il peut potentiellement arriver chez vous ou faire des choses. Vous avez aussi des options. Je ne rentre pas dans le détail, hein, parce que voilà, ce n'est pas mon domaine de compétence, mais, même si je m'y connais, mais ce n'est pas l'objectif, hein, du podcast. Et vous avez toujours dans les limites de sécurité, vous savez que certains opérateurs proposent, en fait, je crois que c'était SFR, moi j'étais resté à SFR, qui proposait SFR Free Wi-Fi, où on pouvait se connecter. Si on laissait l'option activée, qui est activée par défaut, ça permettait aux gens autour de se connecter au Free Wi-Fi de SFR, alors que... Ben, vous n'avez pas pensé ou souhaité donner l'accès à votre box à d'autres personnes. Donc ça, c'est quand même un premier problème, parce que ben, indirectement, il a accès à votre réseau Wi-Fi directement chez vous, donc il pourrait éventuellement avoir accès à des éléments chez vous, alors qu'il n'y est pas et qu'il n'a pas vos accès, mais il a accès à votre box. Donc encore un sujet de sécurité, puis après, bon, comme je l'ai dit, hein, les murs de la maison, ça bloque le Wi-Fi, c'est pas toujours le top, etc. Donc là, du coup, vous avez des options dont on va parler dans la troisième partie, et on va rester sur la sécurité, qui est comment sécuriser son réseau et pourquoi le sécuriser. Alors, en parlant de sécurité, c'est le même principe que le réseau Wi-Fi gratuit qui a été à un moment proposé par Vobox, je voulais parler un peu du réseau sécurisé. Alors déjà, vous avez une notion que vous avez peut-être plus ou moins entendue dans l'actualité, c'est l'IoT, donc l'Internet of Things, qui sont tous les petits objets domotiques qui fonctionnent d'une certaine façon, qui peuvent être facilement piratés, et quand on utilise un certain nombre d'objets connectés en même temps pour faire des petites tâches, on peut se retrouver assez vite à avoir l'équivalent de milliers d'attaques sur quelque chose, une infrastructure, un serveur, enfin ce que vous voulez. Donc du coup, ce qu'on voit apparaître de temps en temps sur YouTube, pour ceux qui regardent YouTube, ou sur d'autres sociétés, d'autres médias, c'est la sécurisation de son réseau domotique. Certaines personnes créent un réseau Internet à part, isolé de leur connexion Internet pour la maison et pour la famille. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans votre domotique, même si vous n'avez pas grand-chose, une fois que vous allez mettre le pied dedans, bah vous allez vite acquérir un certain nombre de choses. Pas forcément des choses incroyables, mais déjà, si vous commencez à équiper votre maison avec une dizaine d'ampoules, ça fait quand même une dizaine d'appareils domotiques. Et tous ces appareils-là, dont les lampes, enfin si je prends les lampes, tout ce qui est luminaire, voilà, il y a des volets, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses. Et tous ces éléments-là, ils ont souvent besoin d'un concentrateur. Et le concentrateur ne fonctionne qu'avec une marque et avec un nombre limité d'appareils. Ou avec plusieurs marques, mais pas avec tout. Donc vous risquez de vous retrouver avec un certain nombre de concentrateurs. Ces concentrateurs-là vont fonctionner avec un certain nombre d'appareils. Donc si vous avez un concentrateur pour 18 appareils, par exemple, 18 ampoules, et que vous en avez, 36 ou plus, bah vous allez avoir deux concentrateurs. Donc ça rajoute du matériel, ça rajoute des objets qui vont interagir sur votre réseau. Donc automatiquement, vous avez des échanges, il y a du flux, et si on parle d'un réseau qui peut être potentiellement à risque, parce que je dis n'importe quoi évidemment, mais vous allez acheter du matériel très peu cher, qui n'est pas sécurisé du tout, que vous allez en mettre partout, parce que c'est pas cher et que ça va en mettre une dizaine, ça vous coûte le prix d'un matériel de qualité, ça va faire son travail sûrement très bien, mais derrière, vous habitez dans une grande ville, vous êtes potentiellement à risque. On peut jouer avec les lumières, on peut. Je connais pas grand monde qui s'est fait pirater ses appareils domotiques, mais on sait jamais. Ou votre appareil domotique peut être, comme il n'est pas protégé, il peut être utilisé à votre insu pour faire des choses à d'autres. Enfin, si à 3h du matin, vous avez quelqu'un qui s'amuse à allumer les lampes de la chambre de vos enfants pour les réveiller, ça va vite vous saouler. Bon, je vois pas grand chose de pire que ça qui peut vous arriver, mais on sait jamais. Donc, il y a beaucoup d'appareils. Si on a un utilisateur avancé, on peut s'amuser à bidouiller, on peut utiliser un Raspberry Pi qui est un petit ordinateur où on peut faire plein de choses dessus, ou d'autres bidouilles électroniques ou autres, on va dire qu'on met un peu plus à risque sa maison, un peu plus à risque son réseau Wi-Fi. Et comme je disais, plus on va être proche d'une ville avec du monde, plus on peut être potentiellement à risque, même si aujourd'hui avec internet il n'y a pas besoin, on peut habiter à la campagne et se faire pirater de la même façon que si on habitait en plein milieu d'un quartier de hackers quoi. Mais bon, le wifi étant sur certaines failles, on sait jamais. Donc tout ça fait qu'il peut être intéressant, il peut être nécessaire d'avoir un réseau domotique à part. L'avantage d'avoir un réseau domotique à part, comme je vous disais, c'est clairement d'isoler sa partie domotique, de pouvoir faire ses tests et de ne pas impacter son réseau classique. Et par exemple, si vous mettez vos concentrateurs ou certains appareils critiques, comme des alarmes ou autres, sur un onduleur, et que vous fonctionnez uniquement en filaire, il est possible que lorsque vous allez perdre votre électricité pour n'importe quelle raison, ben vos appareils fonctionnent, ils continuent à fonctionner. Donc là où, en dehors d'attaques de pirates informatiques, le truc tout bête, hein, y a des voleurs qui arrivent chez vous, ils voient une alarme ou ils ne voient pas, ils ne prennent pas de risque, ils coupent l'électricité chez vous. Ben, si votre alarme elle est sur onduleur et avec un réseau à part, peut-être que elle va continuer à fonctionner. Et en plus de ça, si vous avez utilisé une clé 4G, là ça devient intéressant, une clé 4G alimentée par un appareil sur onduleur, les alertes, les messages et votre réseau domotique peut vous alerter quand même, puisque même si vous êtes chez vous en train de dormir et qu'il y a quelqu'un qui coupe le courant ou qui ouvre un volet qui ne devrait pas être ouvert et que vous recevez une alerte sur votre téléphone ou que vous êtes carrément en déplacement, bah ça peut quand même vous sauver la mise. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point-là. Et aussi, ça rejoint toujours le même principe, c'est que plus vous allez avoir de matériel, plus votre box fournie par l'opérateur peut atteindre ses limites. Parce que quand vous avez besoin de 15 prises Internet derrière votre box et que vous n'en avez que 4, on atteint un peu les limites. Donc là, vous avez aussi l'option dans les réseaux sécurisés aussi du routeur. Donc là, c'est un autre sujet, hein. c'est pas forcément lié à la domotique, mais un routeur, ça va être comme une seconde box Internet à la place ou derrière votre box, qui va lui filtrer les accès entrants de l'Internet. En gros, toutes les connexions et toutes les données qui vont sur le net ou qui sont envoyées de chez vous ou l'inverse que vous récupérez, elles vont passer par ce routeur qui va rajouter une sécurité. une sécurité supplémentaire du fait qu'il y a un appareil en plus qui est un peu plus sécurisé. En plus, il est paramétrable, on peut définir des règles, des protections, on peut changer des paramètres de base qui sont box ou plus simplement des paramètres qui sont prévus sur la box. Et comme on ne se connecte plus à la box, mais on se connecte à ce routeur, on modifie légèrement, on va dire, le comportement standard. Et comme on n'est pas en standard, on se prémunit, on va dire, d'une attaque basique où la personne connectée sur votre réseau ne pourra pas identifier à la box, mais il n'identifiera pas votre routeur. Donc au pire, il peut travailler sur la box, mais il n'ira pas sur votre réseau, donc indirectement pas sur votre ordinateur. Bon, je m'aperçois que c'est assez compliqué de donner des... Du moins, pour moi, c'est assez compliqué d'être hyper basique en disant l'Internet, je vais dans l'Internet, ce qui ne veut pas dire grand-chose, tout en essayant de donner des termes un peu plus complexes. Donc là, comme on est sur une partie un peu plus poussée, je vais juste préciser deux, trois petits éléments qui sont plus techniques, et je vous invite encore une fois à poser des questions sur les différents supports, si jamais vous ne comprenez pas, ce qui m'étonnerait, car je pense que la petite audience qui m'écoute actuellement a quand même des notions de base, et voire plus. Donc je disais par exemple... votre box internet, quand vous allez l'installer, si vous voulez y accéder sur votre ordinateur, vous tapez dans votre navigateur internet 192.168.1.1 et vous allez avoir accès directement à votre box, que ce soit à la box de votre opérateur actuel ou d'un nouvel opérateur. C'est toujours la même adresse. Et votre routeur, par exemple, si vous l'appelez 192.162.3.3, et bien là, vous accéderez directement au routeur. Et par contre, si vous avez les deux qui ont le même nom, bah, c'est comme si vous envoyez un courrier à deux adresses identiques. Bah, y a une chance sur deux que ça arrive au bon endroit. Et des fois, ça peut ne pas marcher du tout. Donc voilà, par exemple, vous avez votre interface ou votre interconnexion entre votre réseau privé qui est votre Wi-Fi, l'échange de données internes à votre maison et Internet. Au lieu qu'il se fasse directement de la box de votre opérateur vers Internet, il se fait directement de votre réseau privé sur ce routeur-là, et c'est ce routeur-là qui envoie sur Internet. Après, qu'il y ait une box ou plein d'autres éléments derrière, j'ai envie de dire, peu importe, vous accédez par Internet avec votre routeur, puisque le routeur est branché à votre box. Voilà, bon, en gros, c'est ça. Et vous pouvez faire beaucoup d'autres paramétrages. Vous pouvez instaurer des règles, instaurer des choses qui sont un peu plus, voire beaucoup plus simples qu'avec votre box Internet. C'est un peu comme les sociétés qui travaillent sur un sujet ou une application depuis des années. Et à côté de ça, il y a un nouveau venu, une start-up qui fait la même application, sauf qu'ils sont en petit effectif, ils sont innovants, il faut qu'ils se démarquent et ils ont une capacité, vu qu'ils sont très modernes, à faire un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont quasiment pas de contraintes, surtout au démarrage. Là, c'est un peu le même principe. Vous achetez un routeur que vous installez par des sociétés spécialisées qui n'ont pas les mêmes contraintes qu'un opérateur qui doit s'adresser à tout public. Parce que bon, je ne pense pas que vos grands-parents qui ont juste besoin d'avoir un accès à Internet, ils souscrivent, on leur dit de clipser les câbles. Ça commence à aller un peu mieux, je pense que c'est une histoire de génération. Mais vous rappelez sûrement qu'il y a quelques années, c'est vous qui allez brancher Internet chez vos parents, grands-parents, etc. Donc voilà ce que ça apporte. On peut définir des règles, définir des sécurités, limiter les accès, changer les noms des Wi-Fi, du Wi-Fi, etc. Et je l'ai sûrement déjà dit, mais votre Wi-Fi est plus puissant parce que ce sont des routeurs spécialisés, donc ils apportent beaucoup plus de choses. Moi, pour un routeur d'il y a quelques années et une box, la dernière box de mon opérateur, ben, mon routeur est toujours plus puissant, juste en termes de Wi-Fi. Donc il y a toutes les options, derrière il y a souvent plus de prises filaires, de prises RJ45 pour brancher plus de choses, si vous n'utilisez pas un switch, etc. Donc tout ça c'est vraiment top et vous pouvez faire les choses très simplement. Un autre exemple tout bête, sans parler de réseau domotique, de réseau supplémentaire, vous avez votre réseau Wi-Fi que vous configurez via votre routeur. Je ne sais pas, votre réseau Wi-Fi s'appelle ABC. Demain, vous changez d'opérateur. Donc, si vous étiez chez SFR, j'imagine que c'est SFR Wi-Fi ou Box SFR 1, 2, 3, 4, 5. Demain, vous passez chez Bouygues. Vous allez avoir Box je sais même plus comment c'est, bon, peu importe, hein, Bouygues Wi-Fi ou Box ou Bouygues 1, 2, 3, 4, 5. Et bah, à chaque fois, vous allez devoir prendre tous vos appareils et changer pour le nouveau nom du Wi-Fi et le nouveau mot de passe. Vous passez par votre routeur, vous définissez un réseau Wi-Fi avec Wi-Fi perso 1, 2, 3, 4, 5 et le mot de passe ABCD. Évidemment, c'est pas ça chez moi et j'espère que c'est pas ça chez vous. Et vous changez d'opérateur, vous débranchez, rebranchez, et bien vu que vous accédez avec tous vos appareils au Wi-Fi de votre nouveau routeur, ben vous n'avez pas changé le Wi-Fi du routeur. Donc vous n'avez aucun paramétrage à faire, c'est déjà de base. Et si en plus vous avez changé l'adresse IP, donc le 192.166.3.3, je ne sais plus, c'est ça que j'avais donné comme exemple, mais peu importe, et bien automatiquement, vous continuerez à avoir accédé à votre routeur avec cette même adresse qui n'est pas l'adresse de base. Donc en fait, tous les paramètres que vous allez mettre sur votre routeur, à moins de vouloir les changer, il n'y aura pas de souci. Et ça devient un peu plus intéressant aujourd'hui parce qu'il y a quand même des offres d'opérateurs, du moins en France, d'opérateurs sans engagement et qui évoluent au fil du temps avec des prix plus ou moins intéressants. C'est surtout pour le téléphone, mais ça marche aussi avec les box. Donc, ou carrément, les gens qui vont passer d'une connexion ADSL à une connexion fibre, bon, c'est toujours sympa. Enfin, moi, dans mon cas, c'est quand même bien parce que je déplace pour le moment mon routeur à plusieurs endroits dans la maison. Je le débranche, je rebranche, j'ai changé plusieurs fois d'opérateur et j'ai surtout changé de box. En fait, j'ai eu plusieurs box 4G pour différentes raisons, déménagement, box qui ne fonctionnait pas, etc. Et là, je suis repassé sur un opérateur ADSL. Je suis passé à une connexion ADSL. Et donc, avec un autre opérateur, même si bon, j'aurais pu garder le même, mais c'est un autre sujet. Et j'ai rien fait. J'ai rien eu à faire. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment pratique. Et puis en plus, bon, le mot de passe, il peut être complexe ou pas. Vous le connaissez logiquement. Donc, à chaque fois que vous apportez un nouvel appareil, eh ben, le Wi-Fi et le mot de passe, c'est toujours le même. Et en plus, ça vous permet aussi de désactiver le Wi-Fi de votre routeur. Le Wi-Fi de votre box et d'utiliser que le Wi-Fi du routeur. Ça vous évite d'avoir 50 000 réseaux Wi-Fi, etc. et de maîtriser un peu plus les choses. Bon, après, encore une fois, toute cette partie sécurité, réseau sécurisé et sécurisation de votre réseau, ce sont des thèmes que vous pouvez choisir de faire ou de ne pas faire, et donc à vous de voir. Et après, j'ai envie de dire, il y a l'option un peu plus poussée. Une fois que vous avez votre réseau avec votre routeur, comment vous pouvez étendre votre réseau ? Comment vous pouvez aller un peu plus loin dans la personnalisation de votre réseau à la maison ? Alors, je ne vais pas rentrer dans des paramétrages, mais juste en termes de hardware, de matériel. Il y a le Wi-Fi Mesh. Qu'est-ce que le Wi-Fi Mesh ? En fait, c'est que vous avez votre routeur, parce que là, on ne va pas parler de la box, mais de votre routeur qui diffuse le Wi-Fi dans une certaine zone, et vous mettez des satellites, donc des petits boîtiers supplémentaires, où ce boîtier supplémentaire va capter le réseau Wi-Fi de votre routeur et va l'étendre. Donc en gros, c'est comme si vous tracez un cercle autour de votre routeur. Vous avez votre boîtier externe, votre satellite, qui a un cercle aussi. Si les deux cercles se croisent, automatiquement, ce satellite va récupérer la connexion là où de votre routeur classique et du coup va lui diffuser dans son cercle. Et automatiquement, bah, là où vous avez un seul cercle, vous en avez deux, donc automatiquement vous diffusez sur une surface plus grande et vous pouvez étendre votre réseau plus facilement. Ça peut être utile dans les grandes maisons, dans les maisons avec des murs épais où finalement on perd assez vite la bande passante, et si vous connectez tout en Wi-Fi et que vous avez des murs épais et que vous voulez accéder par Wi-Fi à Internet via votre Apple TV 4K par exemple, bah, si vous avez un super débit, sauf qu'à cause des murs épais, bah, votre débit il est tout pourri en Wi-Fi, c'est un peu dommage. Bon, évidemment, pas sans filaire, mais c'est pour expliquer. Et le Wi-Fi Mesh, il peut être intéressant aussi pour diffuser du Wi-Fi à l'extérieur. Parce que si vous avez une maison assez grande ou que vous avez mis votre routeur à un endroit spécifique, vous pouvez utiliser le Wi-Fi Mesh pour étendre le réseau dans la maison, voire l'étendre jusqu'à l'extérieur et bénéficier d'une connexion Internet dans votre piscine, dans votre jardin, ou tout simplement si vous avez des portails, interphones ou autres connectés ou qui peuvent se connecter à Internet, au moins vous y avez accès. Voilà pour le Wi-Fi Mesh. Et sinon, vous avez le boîtier réseau. Donc là, ce qui peut être intéressant, si vous voulez un peu pousser le sujet, c'est d'avoir, au lieu de brancher votre box à votre tableau électrique, hein, où vous avez vos arrivées d'électricité, votre disjoncteur, etc., et vous avez logiquement votre arrivée de... Internet, vous allez brancher votre box Internet et éventuellement votre routeur. Là, ce que vous pouvez faire, c'est amener le réseau à un boîtier spécifique que vous installez où vous voulez. Et là-dedans, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, ce que font tout le monde, en fait, c'est tout simplement, ils mettent tout simplement le boîtier, la box Internet, le routeur pour ceux qui ont un routeur spécifique. S'ils ont des NAS, ils en mettent. Donc en gros, le NAS, ça permet de... C'est des disques durs qui dupliquent les données pour éviter de les perdre. Et ça fait un peu... On va dire, grosso modo, ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, mais ça fera l'objet... Oui, ça fera l'objet d'un autre podcast, pardon. Mais le NAS, c'est un peu l'équivalent d'un cloud personnel à la maison. Donc avec tous ses avantages et inconvénients, mais ce n'est pas le sujet. Vous mettez des switches et du matériel spécifique. Alors les switches, ça vous permet de diffuser votre connexion Internet en filaire, mais avec plus de câbles. En gros, si vous prenez votre box ou votre routeur, vous avez 1, 2, 3, 4 ou plus prises RJ45 que vous pouvez brancher, mais une fois que vous avez tout branché, bah, vous n'avez plus de prise. Et le switch, en fait, c'est que vous branchez votre Internet sur ce switch-là, sur la prise 1, et bon, après on va prendre un exemple de 8 prises, moi c'est ce que j'ai aujourd'hui, j'ai 8 prises RJ45, et en branchant sur la première, ça diffuse le même débit Internet sur les 7 autres. Donc je me retrouve à augmenter le nombre de prises RJ45, et c'est normalement ce que vous avez dans votre tableau électrique. Hein. Vous avez plusieurs prises pour aller diffuser dans la maison, et ça vous permet de mettre tous vos appareils d'une certaine façon, dans une certaine config, avec un switch spécifique qui fait certaines choses. Donc vous pouvez aller assez loin en fonction du matériel existant, en gros ce qui se fait sur le marché, ou la personnalisation que vous pouvez faire et les paramétrages que vous pouvez mettre. Encore une fois, en fonction de ce qui se trouve sur le marché, mais aussi de votre connaissance et vos besoins ou vos envies. Et après, vous avez certains matériaux, certains produits spécifiques comme Unify. Alors, je suis en train de creuser le sujet, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est toute une gamme de produits, ou même vous avez Synology aussi. C'est toute une gamme de produits qui sont assez intéressantes. Alors, Synology, il y a un spectre un peu plus large, puisqu'ils font des NAS, des routeurs et d'autres choses. Là où Unify va être, pour le moment, à ma connaissance, assez axé sur le réseau. Donc maintenant, ils font des caméras aussi, mais surtout du réseau. Donc vous avez des switches spécifiques, vous avez des switches... Ah oui, il y a aussi une option, c'est le POE avec certains switches. Alors le POE, c'est Power Over Ethernet, avec, ça commence par un E, et ça vous permet d'alimenter certains appareils via la prise RJ45. Donc vous économisez des prises de courant. Donc ça peut être intéressant, surtout pour les caméras. Si vous les accrochez au plafond ou dehors, bah, au final, vous les alimentez qu'avec cette prise RJ45. Donc Unify, comme d'autres, hein, mais pour le moment, je parle d'Unify, fait ce genre de choses. Ils font aussi un switch avec un disque dur. Comme ça, les caméras vont déverser le contenu enregistré sur un disque dur qui est sur le switch et pas dans le cloud ou ailleurs, quoi. Unify fait aussi des bornes Wi-Fi, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et en gros, votre boîtier réseau, ben vous mettez un peu tout votre matériel, il est ou pas ventilé, il est fermé, protégé de l'humidité en théorie, de pas mal de choses. Donc vous avez un peu un coffre-fort de votre réseau informatique à la maison. C'est plus utilisé en entreprise et dans des petites entreprises, parce que dès qu'on va passer sur des grosses entreprises, hein, c'est plus des petites boîtes, hein, c'est des salles, c'est quand même, ça peut être des salles entières ou plusieurs salles, etc. Ça dépend, toujours pareil, mais voilà, donc vous pouvez encore faire pas mal de choses. J'aurais pu étendre un peu sur ce que font les grosses entreprises, mais là, je voulais juste vous parler comment créer, monter son réseau domestique, son réseau domestique. J'ai toujours envie de dire réseau Internet pour faciliter, mais en gros, comment améliorer sa connexion Internet à la maison et comment la personnaliser par rapport aux besoins et, je pense, dans mon cas et dans d'autres, qu'est-ce qu'on a envie de... On a envie de jouer avec quoi? En gros, c'est vrai que Unify, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, je vois aujourd'hui, j'ai un routeur, ça me suffit largement, avec les paramétrages. Et à la limite, le Wi-Fi Mesh, faire du Wi-Fi Mesh pour avoir une meilleure couverture Wi-Fi sur la maison, ça me suffirait. Mais acheter certains types de produits, c'est un peu des jouets, quoi. Des jouets pour adultes et pour geeks, pour faire des paramétrages, installer des caméras et faire plein de choses qui ne sont pas forcément utiles, qui nous serviront une fois dans notre vie, on sera très content de les avoir, mais on peut vivre sans. Même si, évidemment, c'est un sujet que je vais creuser dans les mois à venir, parce qu'il y a aussi un budget derrière et j'ai d'autres priorités. Donc, dans tous les cas, je vous reparlerai d'Unify ou de l'amélioration de mon réseau à la maison. Je vous ferai un article assez détaillé sur le blog sur ce sujet-là, mais pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui c'était assez générique, donc il n'y aura pas d'article de blog et il n'y a pas de support dédié. Hein, je l'ai fait. Je l'ai créé comme ça. Par contre, effectivement, il y aura bien un article de blog détaillé, mais ça va attendre que la fibre arrive à la maison. Parce que quand la fibre va arriver à la maison, c'est là que je vais faire des modifications pour la fibre, pour avoir ce boîtier réseau. Je vais m'équiper avec du matériel spécifique, justement pour diffuser, pour faire des choses que je ne suis pas capable de faire aujourd'hui avec ma petite connexion. Et je n'ai pas envie d'investir de l'argent alors que j'ai qu'une petite connexion ADSL. Parce que si la fibre met plusieurs années de retard, j'aurai peut-être d'autres envies et ou des besoins différents. Donc, je ferai au moment. Et pareil, lorsqu'il y aura la fibre, il y aura aussi un sujet sur regarder des émissions, des films, des séries en 4K, en haute définition, avec un bon son. Donc, on parlera sûrement de divertissement. Voilà, donc pour teaser un peu ce sujet-là, mais qui n'apparaîtra qu'après l'arrivée de la fibre chez moi, qui est prévue entre mars et novembre 2021. Voilà, comme ça vous avez une grosse fourchette. Je prévois de m'équiper avec une Apple TV 4K, un ou deux HomePod, pas les mini, d'avoir le Philips, c'est quoi, Philips Sync Hue, pour que les lumières se synchronisent, donc faire comme un home cinéma, mais avec du produit Philips et du produit Apple. Maintenant, c'est un gros budget, donc je commence à mettre de côté un petit peu tous les mois. Et puis, si ça n'arrive pas, cet argent partira pour autre chose. Sur ce, je vous remercie et l'épisode est terminé. Ça y est, le podcast est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que mon monologue vous aura plu. Vous trouverez des liens, références ou documentations qui ont servi à l'élaboration de ce podcast dans les notes de l'émission publiées sur mon blog. Avant de vous laisser partir, je vous propose de me laisser une note, un commentaire ou un message sur Apple Podcasts, encore, mon blog, Twitter ou Instagram. Les liens de ces plateformes d'échange sont dans les notes de l'émission. À bientôt !